Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Peut-être qu'on va pas t'entendre là. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Donc au sommaire de cette émission, évidemment, des nouvelles de la planète polar. On va vous parler un petit peu de ce qui pourrait être bientôt des cadeaux pour Noël, hein, il faut commencer à y penser. Et puis des cadeaux pour soi-même parce que ce sont des beaux objets, quelques recueils. Et puis, avant la fin de l'émission, on va faire un petit tour au Royaume-Uni. Et en deuxième partie, on va retrouver la chronique bande dessinée, album de Frédéric Prieux. Et bien sûr, comme Jacques vient de le dire, toujours un petit peu de musique au milieu de tous ces polars. Or donc, je parlais des nouvelles de la planète polar. Cette année, vous ne le savez peut-être pas, mais cela fera 25 ans que Georges Simenon disparaissait. Alors Georges Simenon, c'est un boulimique de l'écriture. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, parce qu'en général, boulimique, c'est qui ingurgite, là, il régurgite plutôt, mais bon. Et donc, il y a une collection qui s'appelle Omnibus, qui fait du très, très, très bon travail. Ce sont des gros volumes, plutôt édités sur un papier très fin, sorte de papier Bible, où on a plusieurs romans dans un seul volume. Et Omnibus, au Presse de la Cité, sort régulièrement des anthologies de cet auteur, comme je disais, prolifique. Imaginez, c'est simple, tout Simenon, 27 tomes. Je rappelle, chaque tome, c'est 5 ou 6 romans. Et puis, il y a les anthologies thématiques. Par exemple, il y a 10 tomes consacrés à tout Maigret, ça c'est pour les fans absolus. Il y a des tomes aussi consacrés aux romans durs. Et cette année, Omnibus a décidé de recenser toutes les nouvelles. Donc ça s'appelle « Nouvelles secrètes et policières ». Et c'est sorti en 2 tomes. Le premier couvre la période 1929-1938. Et le second, on repart en 1938. Et cela s'arrête en 1953. C'est très très bien fait parce que, en plus des nouvelles, il y a au début de chaque tome une présentation très très intéressante de Jean-Baptiste Baronian. Et puis, pour chaque nouvelle, il y a quelques lignes qui la resituent dans l'œuvre de l'écrivain belge et qui en même temps montrent où elle a été éditée en premier. Alors, il y en a quelques-unes qui ont été publiées très très tard, qui ont été écrites en 1930 et qui sont arrivées que dans les années 60. Donc à chaque fois, on vous explique un petit peu cet itinéraire. C'est impressionnant, je ne les ai pas toutes lues, je vous avoue, mais c'est une collection étonnante. Elles sont parues au départ dans de nombreux magazines. Alors, on a des personnages récurrents. Pas tous, évidemment, attention, c'est pas toutes des nouvelles consacrées à Maigret. C'est même pas toutes des nouvelles policières. Il y a par exemple, le premier personnage qui apparaît, il s'appelle Le Borgne. C'est un personnage très bizarre, il sort jamais de chez lui. Par contre, évidemment, ce sont des nouvelles. Il résout les énigmes en un clin d'œil. Juste 2 ou 3 indices.
Pour un Borgne ?
Oui, oui, bon, joli. Et les indices que lui amène le narrateur, et ça y est, en 3 pages, c'est plié. Ce sont quand même des nouvelles qui sont écrites, c'est les premières, donc en 1929. L'ensemble de ces nouvelles, c'est aussi un témoignage incroyable de cette époque. Regardez, 1929-1953, pratiquement 25 ans, qui se déroulent sous nos yeux. C'est pas, on ne vous parle pas de l'actualité proprement dite, mais les us et coutumes de la première moitié du XXe siècle. Puis l'auteur, c'est aussi un très très grand voyageur. Et il va situer ses énigmes, en gros, dans tous les endroits qu'il visite, dans les lieux où il résidait, avec une acuité de description assez étonnante, même si l'on peut trouver parfois le ton un petit peu désuet. Je vous ai parlé des toutes premières nouvelles, et bien la dernière a ainsi été rédigée dans le Connecticut, où Simenon résida en 1953, une nouvelle qui s'appelle Le Gros Loup, et comme beaucoup de celles que vous découvrirez dans ces 2 tomes, c'est pas du tout une nouvelle policière, simplement un événement un petit peu extraordinaire. Et puis, il y a la plume de Simenon qui le montre comme témoin de cet événement. Et c'est un petit peu, je dirais que c'est là qu'il y a tout le talent de celui qui fut un grand journaliste aussi. Pour commémorer les 25 ans de la disparition, vous pouvez aussi, beau cadeau à faire aussi, avoir 6 enquêtes de Maigret illustrées ni plus ni moins que par Loustal, qui est un grand admirateur de Georges Simenon. Et ça, c'est aussi vraiment un très bel ouvrage. Je dois dire que les deux tomes de nouvelles, la couverture, c'est évidemment Loustal qui l'a fait aussi.
2500 pages, à peu près, c'est ça ?
Oui, bah, oui, sur les deux, ça doit faire 2500 pages de lecture. Un autre monument du roman policier, Madame Agatha Christie,
voilà, himself. Une monumente. Et alors, en fait, ben, cette année vient de reparaître une nouvelle enquête d'Hercule Poirot. Elle est parue aux éditions du Masque, comme toutes les précédentes. Quasiment, en fait, c'est une sortie internationale dans toutes les langues, donc en France quasiment en même temps qu'en Angleterre. Et donc, 96 ans après la première...
Ah, je croyais que c'était l'âge d'Agatha Christie.
Non. 96 ans après la première enquête de Poirot, qui est parue en 20 en Angleterre, 1920. Donc, ce nouveau roman est écrit par une certaine Sophie Hannah, qui a été, comment dire, adoubée par les héritiers.
Bon, elle a dû être bien acceptée, parce
voilà,
qu'ils acceptaient
et
ça.
Pour écrire une nouvelle enquête de Poirot. Alors, bon, c'est pas une...
Alors, pour tout dire, c'est bien?
C'est très, très bien. Alors, cette auteure, c'est pas une novice, en fait. Elle a écrit plusieurs polars. Il y en a 4-5 traduits en français, qui sont des polars très anglais, un peu psychologiques. Que j'ai pas lu, donc je peux pas trop vous en dire. Ils sont parus chez Calman Levy et au Livre de Poche. Mais cette enquête de Poirot, je l'ai lue, et c'est vraiment plutôt réussi. Elle a rajouté pas mal d'humour, en fait plutôt une espèce de dérision par rapport aux attitudes qu'on connaît, qui sont très pointilleuses et pédantes d'Hercule. On l'appelle Hercule maintenant. On le connaît bien, hein, c'est presque un ami depuis le temps qu'on lit de ses aventures.
C'est toujours pareil, parler d'un Poirot, c'est toujours
voilà,
délicat.
Voilà, exactement. Donc, voilà, Poirot, ben, au début de ce roman, il a décidé de prendre des vacances. Enfin, plutôt du repos. Il veut reposer ses petites cellules grises, comme on dit. Alors, il va s'installer, attention, il n'est pas parti bien loin, à quelques blocs de chez lui, enfin, à quelques rues, quoi, en fait, toujours dans Londres, il va s'installer dans une pension de famille. Et dans cette pension de famille vit un jeune inspecteur de Scotland Yard. Donc, il sympathise, et quand il y a un meurtre, eh ben, le jeune inspecteur de Scotland Yard va lui demander de l'aider pour résoudre. C'est pas un meurtre d'ailleurs, c'est un triple meurtre. Et en fait, même au départ, c'est un triple suicide. Que bien évidemment, ils vont assez vite se rendre compte que les suicides n'en sont point. Ça se passe dans un hôtel select, tout proche de leur pension de famille. Alors l'histoire est racontée du point de vue du flic, ce qui permet, du jeune flic, donc de Scotland Yard, ce qui permet une vision un peu décalée, sans être franchement iconoclaste, parce que comme elle a été adoubée par la famille, il ne faut pas exagérer. Et dans les genres, ils ont profité de cette sortie, je pense, les éditions du Masque, pour publier une espèce d'omnibus, c'est-à-dire un très gros recueil contenant toutes les nouvelles écrites.
On va dire une anthologie.
Une anthologie, exactement. Des nouvelles écrites par Madame Christie, donc Agatha de son prénom, qui met en scène toutes les son détective préféré. Et il y en a 54 pour 1091 pages et 24 euros.
Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais quand même, en moins de 10 minutes, là, nous venons de vous présenter plus de 3500 pages de romans.
Voilà.
Enfin, de romans et nouvelles, pardon.
Ah, plus que ça, puisqu'il y a aussi les 400
oui,
pages de...
Oui, c'est que romans voilà. Et nouvelles.
Donc, voilà, elles sont publiées dans l'ordre chronologique, ce qui nous permet de bien appréhender à la fois l'évolution du personnage et de l'écriture de notre Agatha préférée. On n'est pas obligé de toutes les lire, on peut en sauter, on peut les lire pas forcément dans l'ordre. On regrettera juste peut-être un léger bémol, c'est que les éditeurs du Masque n'aient pas jugé bon d'adjoindre une petite préface, une postface ou quelques notices comme le font d'Omnibus qui aurait permis de s'imprégner encore plus du personnage.
Au néophyte peut-être de s'y retrouver un petit peu plus. On va passer à un petit morceau de musique, mais je vais demander à Jacques de ne rien en dire, puisque ce morceau de musique fait référence à quelque chose dont nous allons parler dans quelques
juste
minutes.
Juste après, un peu après.
Voilà.
Donc, eh ben, écoutons donc la musique, c'est un écossais. Way out here on the ocean, 50 fathoms down. I hear voices tuning from America in some kind of human chain. In some dark Atlantic pain. Suddenly I'm 10,000 miles away, standing in another man's rain. Standing in another man's rain. Standing in another man's rain. Every man has his flower, though he knows it or not. From the mind
shady old English roads to the humble forget-me-not. Humble forget-me-not. I'm standing in a working class gay bar in Hamburg, drinking ice cold beer. Men quietly talking to each other. How did I get here? How did I get here? I look out the ancient window. It's Christmas time in the street. I see women shopping. Some are broken, some are chic. Some have got the North Sea paint from standing in another man's drink. Standing in another man's drink. Standing in another man's drink. I took a train from Oslo to Bergen in beautiful summer heat. At the top of the line we stood by a glacier. I was tasting a private defeat. Tasting a private defeat. Then me and Frank got back on board. I drank some more French wine. We'll let the sun and the snow.
Voilà donc musique écossaise pour introduire notre chronique autour des très britanniques John Harvey et du très écossais Ian Rankin. En fait, on a rassemblé ces deux auteurs, d'abord parce qu'ils viennent de sortir un livre, ils viennent chacun de sortir un livre traduit, et puis on les a découverts en même France, à peu près en même temps, avec deux personnages récurrents qui ont suivi un peu les mêmes itinéraires. En effet, le personnage de Harvey,
Resnick,
Resnick, de son prénom, Charles Resnick apparaît pour la première fois dans Cœur solitaire en 89. Ses aventures s'arrêtent en 2008, après 11 tomes. Rébus de la même époque, puisque le premier roman date de 1987, et il s'arrête dans Exit Music en 2007, après 17 aventures. Rankin, lui, il avait dit dès le début qu'il respecterait la chronologie, et donc que son personnage partirait à la retraite en 2007. Preuve que ses personnages font bien partie du quotidien de leur lecteur. Quant à Resnick, lui, un drame l'a touché au plus profond de son intimité, et donc John Harvey a arrêté de nous parler de ce personnage, mais qui sait, peut-être un jour, nous allons le retrouver. En tout cas, dans celui qui vient de sortir, et qui s'appelle « Ligne de fuite », traduit de l'anglais par Karina Lecher, eh bien, John Harvey a trouvé de nouveaux personnages. On va quitter d'abord Nottingham et dans Ligne de fuite, on va arriver à Londres. D'ailleurs, ce titre, bien qu'il corresponde à quelque chose dans ce roman, je préfère le titre anglais. Le titre anglais s'appelle Good Bait et c'est un morceau de jazz. On sait que John Harvey adore le jazz. C'est un morceau de jazz de Dameron. Pardon. Et dans ce dernier opus, on va donc découvrir deux nouveaux flics qui, à des kilomètres de distance, vont enquêter sur deux disparitions, deux fuites donc. Le premier flic, c'est une Jamaïcaine, Karen Shields. Elle est chargée du meurtre d'un jeune Moldave. Trevor Cordon, lui, c'est un vieux de la vieille. Et il entreprend de retrouver, ou d'essayer de retrouver, Laetitia, ou plutôt Rose, quand il l'a connue 15 ans auparavant. En gros, Laetitia, junkie, fille de junkie. Laetitia a un enfant avec un gangster ukrainien et elle le fuit. Pour garder et son fils, et surtout sa vie. Les deux affaires semblent très éloignées l'une de l'autre, mais il faut compter sur le talent de l'écrivain britannique pour entremêler les fils et pour que les deux histoires, au fur et à mesure des chapitres, entrent en résonance. Et on peut dire vraiment qu'elles vont entrer en résonance. Je ne vais pas en dire plus sur les deux enquêtes, j'aimerais simplement insister sur les qualités narratives de ce roman. Les deux personnages, d'abord Karen, je cite, une noire qui portait l'uniforme de l'homme blanc. Karen est son quotidien donc, ses soirées, à écouter, alors elle écoute de la pop, de la soul, un peu de rock. On n'est jamais très loin de la musique quand on est dans un roman de John Harvey. Elle mange aussi des plats tout prêts, achetés dans un deli. Ce sont des passages importants. En fait, Karen représente en gros les yeux de John Harvey, qui voit son pays plongé dans la violence et dans la crise, dans la misère. dans le racisme, dans la xénophobie. L'autre flic, lui, coordonne, plus vieux, plus revenu de tout. Même s'il n'aime pas le monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne va pas, il a un petit peu gardé ses illusions. D'ailleurs, il pense qu'à lui tout seul, il va pouvoir sauver une femme et son fils d'un gang de trafiquants ukrainiens. C'est dire s'il a gardé ses illusions. C'est lui qui écoute Good Bait, le morceau titre de ce roman. Et il écoute bien d'autres morceaux de jazz mélancolique. Il résiste, il fait le gros dos, comme quand il était dans ses Cornouailles natales, où il pleut tout le temps. Et d'ailleurs, je vais me servir du titre d'un roman d'un auteur français, Michael Mention, un auteur aussi chez Rivage, puisque pour l'instant, je ne vous ai pas encore dit que ce livre était sorti chez Rivage Thriller. Et Michael Mention, il a écrit un roman il y a 3 ans, je crois, qui s'appelle « Sale temps pour le pays ». Ben, ça convient très bien à cette chronique. Oui, c'est vraiment un sale temps quand on tue des ados, quand on bat des femmes, qu'on les tue, qu'on les foute sur le trottoir, quand les meurtres deviennent banals, quand la misère ronge les âmes et les cœurs. Voilà, je vous rappelle le titre de ce roman excellent. Ça s'appelle « Ligne de fuite », roman de John Harvey. Et donc là, peut-être va-t-on savoir pourquoi tu nous as passé ce morceau de musique.
Eh ben, ce morceau de musique, c'était un morceau donc, de Jackie Levin, qui s'appelle « Standing in Another Man's Rain », donc un titre assez poétique.
Tu fais des progrès dans l'accent.
Oui,
hein.
Je me suis entraîné, qui voudrait dire à peu près en français « Debout dans la pluie de quelqu'un d'autre ». C'est un peu...
C'est un peu littéral, c'est, là, c'est comme traduction.
Oui, hein, mais dans la pluie d'un autre, voilà. Alors que le titre anglais, en fait, le titre français d'ailleurs, du roman de Ian Rankin, c'est « Debout dans la tombe d'un autre ». En fait, il a changé le titre de la chanson, qui serait donc « Standing in Another Man's Grave ». Donc ce roman, donc c'est pour ça qu'on a mis pour illustrer. Et en plus, Jackie Levin, qui est là, s'est décédé, était un très bon copain de Ian Rankin. Donc... Ian Rankin, en fait, a un peu détourné la titre de cette chanson pour en faire son roman. Alors, Corinne le disait tout à l'heure, ben, le flic est, Ian Rankin avait mis son flic à la retraite en 2007 en Angleterre, en 2010 en traduit en France, et il s'était consacré à un autre personnage, comme il l'avait annoncé. Mais, il ne s'était absolument pas interdit de le faire revenir. Et ben, on peut vous le dire, Rebus, is back, il est de retour depuis la fin de l'été. La retraite, en fait, ne lui convenait absolument pas. Ni à Rankin, semble-t-il. Ce roman marque le retour de John. John, Mossad retraité, qui réintègre la police comme civil pour le SCRU, c'est-à-dire en gros les affaires classées écossaises. Donc le titre, je vous en ai déjà parlé, c'est un titre un peu intriguant, surtout la version légèrement modifiée, « Debout dans la tombe d'un autre », mais pour un roman policier, c'est pas forcément complètement hors de propos.
Totalement inconfortable, mais bon.
Ben, certainement. Donc, Rebus, en fait, il fait revenir, c'est Rankin qui fait revenir Rebus, pardon, j'ai tendance à les confondre
Rebus Rankin.
Et en fait, il voudrait bien, puisque la loi a changé, que la retraite a été repoussée, il voudrait bien le faire redevenir inspecteur. Mais le service des plaintes de Malcolm Fox, qui est donc le nouveau personnage de Rankin qu'il a créé ensuite, après le départ de Rebus à la retraite. Vous avez tout compris, je répète.
Ceux qui suivent bien notre émission se souviendront que j'ai parlé de ce roman de Malcolm Fox il y a 2 ans.
Voilà, et donc, dans le service des plaintes, donc en gros, c'est les affaires internes, et il a un gros dossier sur Rebus, et donc il voudrait absolument pas qu'il revienne dans la police officielle. Il végète donc ce brave John Rebus dans son nouveau bureau. Et là, une femme vient lui signaler que la disparition de sa fille, il y a déjà 1 ou 2 ans, ressemble beaucoup à de nombreux autres cas qui sont tous situés le long de la route A9. Alors la route A9, elle traverse l'Écosse, d'Édimbourg jusqu'à Inverness. Alors tantôt c'est une route, tantôt c'est une autoroute, tantôt c'est une petite route. Et intrigué, donc Rebus, il va chercher à savoir exactement et à établir en gros les points communs et relancer l'enquête. Ce qui va lui permettre de retrouver provisoirement pour le moment, sa place à la crime et aussi son ex-adjointe et amante, la très belle Siobhan Clark, qui va être du coup sa chef. Là. Alors on pourrait craindre une énième banale histoire de tueur en série, mais Rankin est bien plus fin que ça, car l'enquête en fait va plutôt s'attarder sur les rapports entre les différents flics, les différents services. Et aussi les différentes méthodes d'investigation à l'ancienne pour Rebus, avec des informations, des discussions de bar autour de multiples verres, des des interrogations.
Pure Malte, j'espère.
Voilà. Bah, quand il peut, oui. Quand il peut pas, bah non. Des interrogatoires multiples, des intuitions et aussi un fort mépris pour la hiérarchie. Alors que les méthodes modernes de l'équipe qui est actuellement en place, c'est plutôt ben, le profilage, l'ADN, les scènes de crime, les GPS, les ordinateurs, les bases de données, etc. Et évidemment, la confrontation va être assez intéressante. Donc ça se passe sur plus de 500 pages qui se lisent quasiment d'une traite. Et l'auteur maintient un très bel équilibre, ça c'est, il est très fort pour ça, entre la tension narrative, on veut savoir ce qui se passe, et les légères digressions. Donc, digressions, j'arrive jamais à le dire. Donc, les anciens lecteurs, eh ben, qui sont déjà attachés au personnage, seront super ravis de retrouver John Rebus, parce que quand même, c'était un peu dommage de l'avoir laissé partir à la retraite.
À 60 ans.
Bien que ce soit très bien qu'on puisse prendre la retraite à 60 ans. Et les autres qui vont le découvrir, eh ben, ça marchera très bien du premier coup. Puis, eux, ils ont de la chance, c'est qu'ils ont 17 à lire. En plus, ceux qui précèdent.
Voilà.
Et j'ai oublié de préciser qu'il est paru aux éditions du Masque et qu'il est traduit par Freddy Michalski.
Donc,
Debout dans la tombe d'un autre, de Ian Rankin.
Voilà. Eh bien, on va vous dire à tout de suite.